Bonjour, voilà, je m'appelle Pierre Honoré, je suis un habitant de Saint-Étienne-lès-Orgues et je suis engagé dans l'association AMILUR, qui est une association qui défend l'espace et les paysages de la montagne de Lure jusqu'au plateau d'Albion. Et actuellement, nous sommes affectés par des projets multiples qui sont menés par des opérateurs patentés qui démarchent les municipalités pour installer des centrales photovoltaïques au sol dans des espaces naturels et forestiers. Nous réagissons à cette invasion de l'industriel dans le naturel parce que nous sommes des habitants du pays et que nous aimons cette zone géographique telle qu'elle est, avec tous ses repères patrimoniaux et surtout la qualité de vie que ça génère. C'est pour ça que nous nous sommes associés et que nous avons mené une action sur essentiellement deux projets qui affectent particulièrement le flanc de la montagne de Lure, qui sont un projet déjà ancien sur la commune de Cruis et un autre plus récent sur la commune de Hongles. Mais il faut savoir que la montagne de Lure est attaquée par plusieurs autres projets, de celui de Châteauneuf-Val-Saint-Donat, dit des Marines, en passant par celui d'Aubignosc, dit il y en a deux, les Crozouhers en zone agricole et le Malaga qui est en zone forestière. On a également plusieurs projets qui sont déjà réalisés sur la commune de Montfort, c'est les contreforts de la montagne de Lure. Un projet qui n'a pas encore vu le jour sur Malfougas. Le projet de Cruis dont j'ai parlé, un autre projet qui est en instance de réalisation sur Revest-Saint-Martin, un qui est déjà réalisé à Fontienne. Si on remonte un peu vers le nord, on a encore donc celui d'Hongles que je vous ai présenté tout à l'heure et sur lequel je voudrais revenir après. Et puis, il y a deux projets sur Bannon et encore au-delà, sur le Contadour, Redortier, les Omergues et plus haut encore, Sceaux, Revest-du-Bion, Sceaux et Saint-Christol. Donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup de projets qui impactent le même secteur géographique et ce sont les effets cumulés de tous ces projets que nous analysons, nous jugeons pour savoir s'ils sont supportables. Si on va simplement suivre la révolution ou si on va les combattre. Donc là, aujourd'hui, on a fait une journée particulièrement réussie en faisant une visite du secteur d'Hongles, une forêt tout à fait remarquable, une forêt unique dans notre secteur, sur un terrain qui est calcifuge, c'est-à-dire avec un terrain acide où pousse une végétation très particulière, avec des grands arbres magnifiques, du type pin maritime, qu'on ne trouve pas ailleurs. Une biodiversité spécifique liée à ce type de terrain. Nous y avons rencontré une salamandre, car c'est également une zone humide extrêmement rare et qui devrait être protégée. Nous ne comprenons même pas comment on a pu imaginer d'installer un parc photovoltaïque dans cet endroit-là. C'est une aberration écologique et il a fallu que les sirènes que l'on a fait miroiter, les sirènes financières que l'on a fait miroiter à la commune soient bien belles pour que cette commune accepte de sacrifier un tel endroit. Voilà, je suis vraiment désolé qu'on puisse attaquer une telle zone alors qu'elle est magnifique. Et tout le monde est d'accord pour le dire, sauf les promoteurs qui, eux, n'hésitent pas à venir avec des bulldozers, à sacrifier une ancienne voie qu'on peut dire romaine pour certains. C'était la version qui était prétendue par Pierre Martel d'Alpes de Lumière, qui en avait fait la description. D'autres prétendent qu'elle est moins ancienne que les Romains, mais de toute façon, c'est une ancienne voie antique qui reliait la Via Domitia avec d'autres secteurs et qui, d'un point de vue patrimonial, représente quelque chose. Et bien, tout ça a été défoncé à coups de bulldozer et c'est inadmissible.
Du coup, là, ce que vous nous présentez, c'est un décor qui est assez effrayant, puisque toute la montagne de Lure, a priori, va être affectée, parce que vous avez cité quasiment tous les villages, peut-être qu'il en manque quelques-uns, mais je ne les ai pas entendus, peut-être Saint-Étienne-lès-Orcs, je n'ai pas entendu, mais aujourd'hui, on se rend compte que du coup, ils sont sans limite, quoi. Ils ont décidé d'envahir un territoire pour en faire du profit, hein. Il ne faut pas se voiler la face, c'est qu'une question de profit, alors qu'il y a déjà des zones anthropisées où ils pourraient aller, ou des zones urbanisées où ils pourraient aller, plutôt que d'aller dans des zones qui sont à sauvegarder, comme la montagne de Lure ou même les zones pastorales, parce qu'il y a quand même des bergers qui sont sur la montagne de Lure. C'est une zone forestière importante, c'est un poumon local aussi. Donc là, où ça en est au niveau juridique, j'espère que du coup il y a des actions juridiques pour contrer ce projet, parce qu'a priori les communes, si j'ai bien compris, ont déjà signé et ils ont les autorisations préfectorales pour, entre nous, on peut dire défoncer la montagne de Lure. Et ne plus laisser un décor que terne et vide, quoi, énergétique, quoi. Donc, je suis assez inquiète, effectivement, parce que là, vous avez énuméré tous ces villages. Je ne vois pas beaucoup ceux qui ne seront pas impactés. Et aussi, on sait que c'est une région qui est très impactée par le solaire, parce qu'il y a une ressource illimitée en soleil, effectivement. Mais on peut déjà utiliser tout ce qu'on a aujourd'hui d'urbaniser, plutôt que d'aller dans des zones non urbanisées, même si ça coûte moins cher aux promoteurs, quoi.
Oui, tout à fait. Cette prolifération des projets photovoltaïques au sol est une conséquence des objectifs qui ont été fixés au niveau national, bien sûr, mais relayés au niveau régional par le schéma régional de développement durable et des énergies et de l'égalité des territoires, qu'on appelle le SRADET. Un acronyme assez difficile à prononcer et qui ne parle pas à tout le monde. Donc ce SRADET, il a fixé les objectifs que doivent réaliser les départements de la région pour satisfaire les exigences de l'État au niveau de la réalisation de la production d'énergie renouvelable, photovoltaïque et éolien. Amilure s'est fait connaître au départ par un combat contre l'éolien. Une batterie d'éoliennes devait être installée sur le plateau du Contadour, enfin au-dessus de la Roche-Giron, et ces moulins à vent, nouvelle génération, devaient affecter durablement ce paysage que je décrivais tout à l'heure. Et Amilure s'est mobilisée, a mobilisé la population autour d'elle et a défendu ce territoire et le projet éolien a été abandonné. Malheureusement, tous les projets éoliens n'ont pas été abandonnés. On voit que pas très loin d'ici, sur le massif de la Sainte-Victoire, un chapelet d'éoliennes a été installé. Et en toute illégalité, puisque certaines autorisations n'avaient pas été obtenues. Pour les parcs photovoltaïques, c'est la même chose. Vous avez dit que les autorisations avaient été données aux communes. Non, pas toutes. Certaines sont encore en instance d'instruction de ces projets. Une des problématiques de notre action et de la décision, c'est que il y a une forme d'omerta qui s'établit à partir du moment où un opérateur vient trouver une mairesse ou un maire et lui demande une confidentialité. Ne fournit pas l'ensemble des données à la population. Cette population se retrouve quelque temps après avec un projet qui est préparé par l'opérateur et par ses équipes techniques, et tout d'un coup émerge ce projet. Ah ben, on a décidé que à cet endroit-là, ça a été le cas à Angles, à cet endroit-là, on y planterait 4 hectares, 5 hectares, 10 hectares, 12 hectares de panneaux photovoltaïques. Mais ça, la population n'en a pas été informée. C'est la mairesse, au mieux le conseil municipal, qui a été informé de la démarche. Mais avant de prendre une décision autorisant l'implantation, il me semble que c'est un minimum démocratique d'en référer aux gens qui vivent là. Ce n'est pas toujours fait, malheureusement. Ça pose le problème de la représentativité et on peut comprendre que dans certains cas, cette absence de consultation de la population génère un tel dégoût que les gens ne participent plus à la vie démocratique du pays et se réfugient dans une abstention en disant « Oh, de toute façon, on ne nous demande jamais notre avis ». Mais si on nous le demandait, notre avis, nous le donnerions. Nous sommes des citoyens et nous avons besoin de pouvoir exprimer, même si nous sommes d'accord avec le projet, eh bien, on peut le dire, et si nous ne sommes pas d'accord, on le dira aussi.
Mais du coup, à partir du moment où il y a un changement de destination des surfaces, donc là, c'est les surfaces agricoles, pastorales et des forêts, il y a normalement une enquête publique qui est effectuée pour savoir si c'est possible avant que ça soit appliqué. Est-ce qu'il n'y a pas eu du coup d'enquête publique par rapport à ces dossiers-là ? Moi, je suis étonnée que les citoyens n'aient pas été informés de ce projet-là, mais ça me confirme dans mon inquiétude, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a des choses qui se font de manière illicite. Hein. Là, pour moi, c'est de manière illicite. Et il y a un coup de force qui est effectué sans consultation des populations. Parce qu'effectivement, comme vous le dites très bien, aujourd'hui, il y a une grande mobilisation, notamment des citoyens et des habitants de la montagne de Lure contre ce projet-là. Mais ils l'ont su comment ? Ils n'ont même pas été consultés. Comment vous, par exemple, quand vous êtes mobilisé avec votre association, vous avez été informé de ces projets-là ? Je me questionne.
Justement, il faut attendre d'être confronté à une procédure d'enquête publique pour pouvoir avoir la totalité des informations. On ne peut obtenir l'étude d'impact qui est obligatoire dans ces cas-là. On ne peut aussi obtenir les avis officiels qui sont donnés par l'autorité environnementale que au moment de la procédure d'enquête publique. Parce que comme ces parcs photovoltaïques sont établis hors de la zone urbanisée de la commune, il faut qu'il y ait une première enquête publique pour dérogation au document d'urbanisme. Savoir que toutes les communes n'ont pas de document d'urbanisme, donc parfois il faut qu'ils en créent un. Voilà, il faut qu'ils en créent un, mais même la carte communale est un document d'urbanisme. Il faut qu'ils créent un document d'urbanisme, que ce soit une carte communale ou un PLU, avant de pouvoir envisager de faire un projet. C'est pour ça que ça prend parfois très longtemps avant que la première démarche de l'opérateur envers la commune et la réalisation du parc n'interviennent. Le règlement national d'urbanisme qui, lui, n'autorise pas l'implantation de parcs photovoltaïques. Donc, pour pouvoir autoriser un parc photovoltaïque, il faut que la commune se mette aux normes et qu'elle crée son document d'urbanisme.
Et le RNU, il demande aussi aux préfectures l'autorisation
voilà.
De construire.
Voilà.
Ça, c'est en fait, il se réfère que aux préfectures.
Voilà. Il y a une réglementation qui est uniforme sur l'ensemble du pays. Mais pour pouvoir ensuite déroger à certaines normes, notamment la constructibilité en extension de l'urbanisme, il faut définir une zone particulière. Donc ça prend du temps, S'il y a un PLU, il faut mettre le PLU en conformité, donc demander que la zone convoitée soit indicée de façon à pouvoir recevoir un équipement industriel. Et ce n'est pas toujours simple. Donc c'est à ce moment-là, quand il y a ces démarches-là, que, disons, le lièvre est levé
Et qu'on a les infos.
et qu'on a... On commence à avoir les informations. Mais il faut aller les chercher. Alors, on a plusieurs outils, hein. On peut aussi avoir des relais sur le terrain qui vérifient, ben voilà, là, il y a des engins qui arrivent, ou il y a des géomètres qui
C'est un peu
passent,
trop tard des
voilà.
fois.
Et parfois, voilà. Donc ça, c'est vrai que en étant une association, on a des adhérents et parfois les adhérents nous font remonter ce type d'information et ça, c'est très précieux.
Mais du coup, est-ce qu'il y a eu une procédure juridique qui a été mise en place actuellement pour contester du coup ces projets qui vont peut-être se réaliser ou qui sont en train de se réaliser pour certains? Et à mon avis, il y en a qui ont déjà fait un défrichage important ou je ne sais pas à quel niveau sont les projets actuellement et quel levier on a juridique pour les contrer. Bon, il y a des mobilisations citoyennes comme aujourd'hui. D'ailleurs, on vous remercie d'avoir organisé ça parce que c'est hyper intéressant. Il y a des gens qui viennent de partout. Il y a des écrivains. J'ai interviewé un écrivain très intéressant, Gaspard Alinse. Et il y a des philosophes. Donc c'est très riche aussi pour les citoyens pour comprendre la problématique des forêts parce que on n'ébruite pas forcément le fonctionnement des forêts et la grande diversité, notamment comme vous l'avez évoqué, les zones humides qui sont une grande richesse floristique et aussi la faune, et c'est hyper intéressant. Donc tout ça risque de disparaître face à ce projet énorme. Donc voilà, je voulais savoir au niveau juridique comment vous vous y prenez et quel levier on pourrait avoir pour contrer un projet aussi gigantesque, quoi.
Oui, d'abord une petite précision. Pour la journée d'aujourd'hui, à Millau, on n'est pas un des organisateurs. On est venu accompagner, on travaille en main dans la main avec le collectif Elzéar, Luron Résistance, qui est l'organisateur de cette manifestation, avec le collectif citoyen pour un autre photovoltaïque dans les Alpes du Sud, qui eux regroupent plusieurs collectifs des Hautes Alpes, du Buëch en particulier, qui sont des zones des Alpes du Sud confrontées exactement au même problème que celui que j'ai décrit pour la montagne de Lure. Mais à Millure, dans la manifestation d'aujourd'hui, n'est pas a véritablement par et n'est pas partie prenante dans l'organisation. Hein, on accompagne simplement par notre présence. Ce que vous me demandez, c'est s'il y a des projets qui sont combattus. Oui, il y a deux projets pour lesquels nous avons fait un recours au tribunal administratif. Donc, c'est le projet de Cruis dont j'ai parlé brièvement tout à l'heure, et le projet d'Ongles. Ce sont les deux projets actuellement qui occupent notre avocat et nos finances, puisque c'est quand même des démarches qui sont onéreuses de mener une bataille juridique. Et c'est pour ça qu'on a besoin aussi d'avoir le soutien de nos adhérents pour pouvoir mener ces batailles-là. Donc le projet de Cruis, lui, il a eu toutes les autorisations, y compris l'autorisation de permis de construire, mais il n'est toujours pas sorti de terre. Et aujourd'hui, la date de péremption du permis de construire est arrivée à échéance. Donc il faudrait, en toute logique, que la municipalité ou l'opérateur qui mène ce projet relance une demande de permis de construire pour le parc. L'étude d'impact, la première.
Mais du coup, ils ont eu le permis de construire ou ils l'ont pas eu du tout?
Ils l'ont eu, mais
Ils ont fait les
ils
travaux.
n'ont pas fait les travaux dans le temps
Ils ont fait, ouais, c'était
imparti.
deux ans.
Donc voilà.
Dans les
Donc
deux ans, ils ont fait.
maintenant, il faudrait en toute logique.
ils ont fait aucun travaux parce que dès qu'on commence à faire des travaux, ça suffit pour acter un commencement.
Voilà, ben là actuellement, le projet, il est, le permis de construire est caduc. Bonne nouvelle pour nous, mais enfin pour nous et puis pour il y a eu quand même une levée de bouclier parce que ce projet-là, si il était peu visible du village de Cruis lui-même, et c'est pour ça que les habitants n'en avaient pas vraiment ou connaissance ou rien à faire. En revanche, le village voisin de Montlot, lui, était en première ligne et le matin, en ouvrant ses fenêtres, l'habitant de Montlot avait en face de lui un miroir qui scintillait au soleil.
Mais du coup, à Montlot, il y a donc Camille qui est maire de Montlot. Elle a refusé, elle, les projets de photovoltaïque. Pour l'instant, elle est dans l'opposition.
On n'a pas su qu'il y avait de projets qui sont, ce qui n'est pas faute d'avoir été démarchés, hein, mais pour l'instant, le conseil municipal ni la mairesse n'a pris de décision pour autoriser un projet. Vous avez parlé de Saint-Étienne-lès-Orgues tout à l'heure. Ça a été la première commune, peut-être de ce secteur, à avoir un projet qui était un projet privé dans la plaine des Valettes, à l'entrée de Saint-Étienne-lès-Orgues. Un particulier agriculteur avait le projet d'autoriser une implantation d'une ferme photovoltaïque. À l'époque, on n'était pas centrale, on disait une ferme photovoltaïque. Mais la municipalité, là, s'y est opposée. Et le projet a été abandonné, purement et simplement.
D'où l'importance des collectivités de se mobiliser contre ces projets-là. On voit que la résistance, en fait, elle est hyper effective quand les mairies s'opposent à ces projets-là. Donc c'est important aussi, je pense, que les mobilisations citoyennes aillent alerter les collectivités et les communes sur cette problématique-là. Parce qu'en fait, c'est sûr que ça amène des fonds dans les communes, mais il y a d'autres alternatives. Vous avez parlé donc de cette association qui propose, on n'est pas contre le photovoltaïque, mais on s'oppose à ce que ça soit mis n'importe où, n'importe comment. Mais par contre, c'est bien d'alerter des possibilités qu'il y a d'utiliser du photovoltaïque déjà et de maîtriser de A à Z son projet. Ça permettrait de ramener davantage de fonds dans les communes plutôt que ce soit des promoteurs qui arrivent, qui rasent tout, et qui profitent en fait du crime, quoi. Donc vraiment, moi je pense qu'aujourd'hui aussi, une des batailles que vous devez mener, j'en suis sûre, c'est d'aller alerter ces collectivités sur la nuisance que ça engendre, ce photovoltaïque, dans les zones sauvages comme la montagne de Lure, quoi.
Oui, d'ailleurs, la loi prévoit que la collectivité dominante, ici c'est les communautés de communes, soit associée au meilleur choix des espaces susceptibles d'accueillir ces équipements. Souvent, malheureusement, les petites communes ne se soumettent pas à cette règle, et la communauté de communes est un peu laissée pour compte dans la décision et parfois mise devant le fait accompli. Ce qui est par contre possible, c'est de demander aux citoyens de proposer des espaces, notamment en toiture, qui peuvent être soit des toitures de locaux collectifs, hein, je pense à Banon qui a installé une centrale photovoltaïque sur le toit de sa caserne des pompiers, ou bien de l'école, que sais-je. On peut avoir ces perspectives-là, de mettre du photovoltaïque sur les toitures et de prévoir que cette énergie qui sera produite sera consommée localement. C'est un peu l'esprit d'une association qui existe à Bannon, qui s'appelle les Centrales Villageoises de Lure-Albion, et qui propose aux particuliers et aux collectivités de s'associer afin de choisir des espaces qui sont souvent des espaces anthropisés. Ainsi, une ancienne décharge peut être couverte de panneaux photovoltaïques parce que ben, c'est déjà un lieu qui est impacté par l'activité humaine, et donc il y a des enjeux environnementaux qui sont moindres et on ne va pas dans ces cas-là attaquer des zones naturelles, forestières ou agricoles comme cela se fait. Et c'est la gourmandise des opérateurs parce que, comme le disait un intervenant tout à l'heure lors de la manifestation, ça coûte moins cher d'acheter du foncier forestier que d'acheter du foncier ou demander l'autorisation de construire sur une toiture de supermarché. Et pourtant...
Oui, en fait, la problématique, c'est que le foncier agricole et le foncier de forêt, donc les landes, coûteront toujours moins cher que les zones urbanisables. Donc du coup, c'est une manne pour eux parce que du coup, ils dépensent moins de frais. Et en plus, ils tendent une carotte aux collectivités. Donc du coup, elles sont problématiques de dotation. Donc du coup, elles sont prises dans ce cercle et elles mordent à l'hameçon directement, quoi. Mais c'est vrai que là-dessus, il faudrait peut-être justement protéger davantage l'urbanisation dans ces surfaces pastorales et agricoles, en mettant qu'à partir du moment où c'est urbanisé, ils le payent le même prix peut-être, qu'il y aurait aussi un levier financier qui calmerait leur frénésie là, qui est, parce que quand même pour déporter l'électricité d'un point A à un point Z, ça paye, il y a une perte d'énergie aussi conséquente aussi, il y a tout ce volet là quoi.
D'ailleurs, l'association Amilure a mis en ligne très récemment une pétition sur mesopinions.org pour demander qu'un moratoire soit scellé sur l'utilisation de toutes ces zones naturelles forestières pour les projets photovoltaïques. On a eu en quelques jours plus de 2000 signatures. J'invite vos auditeurs à rechercher cette pétition sur Internet et à la signer. voilà. Elle s'appelle pour un moratoire à l'établissement des parcs photovoltaïques sur la montagne de Lure et le plateau d'Albion.
Ben merci beaucoup. En tout cas, c'était très intéressant et j'espère que la lutte vaincra, qu'on va arriver à faire comprendre des choses qui sont quand même une évidence pour nous et complètement, on est dépassé par la situation. Parce que c'est de partout que ça prend.
Je n'étais qu'un gosse, mon grand-père me disait souvent, assis à l'ombre de son porche, en regardant passer le vent. Petit, vois-tu ce pieu de bois auquel nous sommes tous enchaînés, tant qu'il sera planté comme ça, n'aurons pas la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, 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 et nous aurons la liberté.
Je m'appelle Baptiste Morisot, je suis philosophe dans le service public, je suis maître de conférence à l'Université d'Aix-Marseille et j'écris des livres sur les questions de nos relations avec le monde vivant.
Et pourquoi tu es là aujourd'hui ?
Je suis là aujourd'hui parce que cette journée, elle prend place dans un mouvement collectif qui s'appelle l'Appel pour des forêts vivantes. Et c'est un appel auquel je participe depuis le début, auquel je crois profondément, parce qu'il il essaie de réunir des énergies de lutte pour la forêt qui sont multiples, avec plusieurs visages, des gens qui veulent aller vers une sylviculture alternative, plus douce, des gens qui veulent défendre des forêts qui sont exploitées alors qu'elles mériteraient... d'être laissé en libre évolution, des gens qui veulent réhabiter la forêt, des gens qui militent contre l'industrialisation à outrance de ces milieux. Et donc, il se passe quelque chose autour des forêts, là, ces dernières années. Et pour moi, c'est un enjeu central, parce que je crois que la forêt, c'est un milieu qui réunit toutes les questions écologiques. C'est pas un milieu anodin, c'est pas n'importe quel milieu. Et c'est un milieu dans lequel eh bien, on peut comment dire, sensibiliser les gens à la transformation de nos relations avec le monde vivant.
Et du coup, moi, ça me fait penser qu'aujourd'hui, il y a tout un mouvement aussi qui veut mettre sous coupe de protection un peu trop exacerbée, à mon avis, des milieux, quoi. Alors que dans les milieux, il y a de la vie et il faut que cette vie s'entretienne, notamment au niveau du pastoralisme en forêt. Je vois qu'avec l'ONF, là, dans mon intervention, j'expliquais que du coup, des fois, c'est un peu conflictuel parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des caprins. Je crois que c'est les équins aussi. Il n'y a que les ovins, a priori, qui pourraient aller dans ces milieux, alors que ça fait un défrichage et ça engendre aussi une protection des incendies, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez, ça, justement, que la forêt, il ne faut pas non plus la surprotéger, il faut vivre avec elle et l'utiliser sciemment et de manière intelligente?
Je pense que pour moi, donc, du point de vue philosophique, le problème, c'est ce qu'on appelle le dualisme ici, c'est-à-dire l'opposition binaire entre d'un côté l'idée que tout doit être exploité et de l'autre l'idée que tout devrait être sanctuarisé et que utiliser le moindre arbre, c'est un crime. Moi, mon problème, c'est de sortir de cette manière de raisonner. Maintenant, une fois qu'on en sort, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la forêt, on a le droit de l'utiliser, on a le droit de prélever du bois, que ça a du sens, et qu'il faut défendre des foresteries alternatives qui respectent les travailleurs, les forêts elles-mêmes, la diversité vivante dedans. Mais ça veut dire aussi qu'il faut regarder ce dont on hérite dans la forêt. Et par exemple, on hérite dans la forêt d'une logique d'exploitation qui est généralisée et absolument omniprésente. Et là, moi, pour moi, il y a une sorte de, il y a une erreur philosophique sur la compréhension de ce que c'est que la forêt, parce que justement, la forêt, c'est pas un milieu agricole. Un milieu agricole, c'est un milieu qui a été transformé pour favoriser des variétés qui nous nourrissent. C'est fondamental, il faut les défendre sous des formes de l'agroécologie, par exemple. Mais la forêt, c'est un milieu qui est différent. C'est un milieu qui existe depuis bien plus longtemps que nous. C'est un milieu qui a 130 millions d'années. C'est un milieu qui est absolument capable tout seul de se régénérer. Et dans cette mesure, pour moi, c'est une sorte d'erreur sociétale de considérer que la totalité de nos forêts doivent être exploitées, utilisées, transformées ou gérées. Moi, je défends qu'il y a une part de nos forêts qui mérite d'être laissée en libre évolution. Mais par contre, je récuse que toute la forêt doit être laissée en libre évolution. Je pense que ça, c'est complètement aberrant. Je pense que le grand enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à faire la part des choses, à défendre une alliance entre d'un côté de la sylviculture douce, non industrielle, comme il y a des agricultures non industrielles, et de la protection des milieux dans lesquels on laisse des forêts se développer librement. Et ça nous rappelle que les forêts n'ont pas besoin de nous pour s'épanouir. C'est nous qui avons besoin d'elles pour toute une série de choses qui sont inestimables.
Ben ouais, du coup, là-dessus, moi, je ne vous rejoins pas tout à fait parce que je pense qu'aujourd'hui, toutes les forêts doivent être respectées. Dans le milieu agricole, on dit la forêt a empiété le monde agricole. Donc, c'est vrai que depuis l'après-guerre, effectivement, il y a davantage de forêts. Il faut quand même rappeler que l'après-guerre a permis notamment de faire une déforestation massive des forêts. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a eu des replantations qui ont été faites de manière un peu industrielle, ce qui n'est pas forcément très positif non plus. Mais je pense que toutes les forêts, elles doivent être gérées de manière raisonnable. Les coupes rases, moi, je suis formellement contre. Je pense que derrière ça, il n'y a plus rien qui pousse. Enfin, ça redémarre, mais a priori, c'est très long. Le développement du forêt, c'est très, très long. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut plutôt raisonner dans l'ensemble de la forêt, de recréer aussi la vie, parce que quand les milieux se ferment trop, il n'y a pas de vie non plus qui peut s'instaurer et ça peut être des dangers. Je pense que les forêts en soi, ça ne doit pas être utilisé comme l'agriculture. Je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, il ne faut pas faire des coupes et de le remettre en culture. Par contre, je pense qu'il faut laisser les agriculteurs, enfin les éleveurs, je vais préciser, parce que ce n'est pas les agriculteurs, mais les paysans, tiens, on va assumer le mot paysan-éleveur, pour aller dans ces forêts et les gérer. Et après, quand on parlait là, pendant le débat, c'était intéressant et tout, mais que ce soit des privés qui accaparent la forêt, aujourd'hui, la connaissance des privés sur la forêt, elle est minime. Déjà, nous, en tant que paysans, on a du mal à comprendre tout son fonctionnement. Vous, les philosophes et tous ceux qui utilisent la forêt, les écrivains aussi qui essayent d'en avoir la connaissance et les gens qui l'exploitent parce que c'est aussi une ressource, il ne faut pas se voiler la face, on fait des maisons avec aussi. Donc ils peuvent le gérer aussi de manière très intéressante. Il faudrait former les agriculteurs mais aussi tout ce monde-là à avoir une capacité à utiliser la forêt en la respectant. Dans l'agriculture, c'est pareil. Moi, je pense qu'il y a agriculteur et paysan. C'est tout à fait différent. Le paysan, il vit avec le sol, il vit avec le respect, il consomme ce qu'il mange. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des agriculteurs, ils produisent des produits qu'ils ne mangent même plus, tellement que c'est toxique, ils se sont rendus compte dans l'impasse dans laquelle ils étaient et dans le danger dans lequel ils étaient confrontés. Donc aujourd'hui, je pense que tout milieu doit être respecté et utilisé intelligemment. Après, le mot utilisé, je pense qu'effectivement, c'est peut-être ça qui vous agresse. Mais
c'est très intéressant. Et je pense que moi, je comprends bien ce que vous dites et je pense qu'on est vraiment aligné sur les questions agricoles et de transformation profonde du modèle agricole. Moi aussi, je revendique le mot paysan. J'ai fondé des associations avec des paysans sur ces questions-là. Mais par contre, il y a un désaccord philosophique entre nous. C'est vrai, c'est que moi, j'aimerais vous poser une question toute simple. C'est que, par exemple, il y a des questions concrètes. Parce que pour moi, il ne faut pas confondre les questions stratégiques et politiques et les questions philosophiques. Sur les questions stratégiques, par exemple, moi, le sylvopastoralisme, ça, c'est extrêmement intéressant. Moi, j'ai des amis bergers dans les baronnies qui défendent des manières de faire du pastoralisme qui sont magnifiques, où ils vont aller pâturer des lieux qui ont été récupérés par les fronts de colonisation forestière alors que c'était d'anciennes pâtures. Maintenant, c'est des forêts. C'est absolument défendable à beaucoup d'égards. Donc, il n'y a aucune raison d'avoir de position de principe contre ça. Maintenant, il y a beaucoup d'usages de la forêt qui sont magnifiques et défendables et qui enrichissent nos relations avec la forêt. Maintenant, décalons la question sur le champ philosophique. Et moi, j'ai juste une question à vous poser. Elle est toute simple. C'est expliquez-moi ce qui justifie la croyance dans l'idée que la totalité des écosystèmes terrestres, chaque hectare, chaque art, doit être utilisé et géré par les humains. Alors que nous, on apparaît comme espèce il y a 300 000 ans, on est là depuis 40 000 ans, on fait de l'agriculture depuis 5 000 ans, alors que ces milieux, ils ont des millions et des centaines de millions d'années et ils sont autonomes depuis des centaines de millions d'années. Donc moi, je ne demande pas qu'on sorte des forêts, qu'on arrête de gérer les champs, pas du tout. Je dis comment ça se fait que 100% des forêts doivent être gérées. Il y a un moment, c'est complètement fou. C'est un milieu qui est plus ancien que nous, qui est parfaitement autonome sans nous. Vous parlez de régénération. La forêt n'a pas du tout besoin de nous pour se régénérer. Je demande à quel moment on va pouvoir, comme société, se dire pourquoi pas laisser quelques pourcents de forêts se déployer toute seule, comme elle le fait depuis des millions d'années, et manifester qu'en fait, elle n'a pas besoin de nous. Et pour le reste de la forêt, la grande majorité de la forêt, on va continuer de l'utiliser de manière respectueuse, de manière multiple, de manière riche. Mais pour moi, ce serait un changement social majeur de se demander tout simplement qu'est-ce qui nous donne le droit d'exploiter la totalité des écosystèmes de la Terre.
Mais je vais répondre tout simplement à votre question, ce n'est pas possible. On ne peut pas exploiter la totalité. Moi, je suis chevrière, j'ai des chèvres dans ma colline, il y a des endroits complètement escarpés qui sont à flanc de falaise entre nous, je ne peux pas y accéder. De toute façon, entre nous, il va y avoir des surfaces que je ne vais pas pouvoir exploiter ou pas exploiter, mais de toute façon, c'est une évidence. Non, mais ce que je veux dire, celles qui sont accessibles, soyez tranquilles. Et après, par rapport à ce que vous dites, effectivement, la forêt n'a pas forcément besoin de l'intervention de l'homme, ça je suis d'accord. Sauf que l'intervention de l'homme, si elle est faite de manière intelligente, elle peut être intéressante aussi pour la forêt. C'est ça que je voulais dire. C'est pour ça que pour moi, je parle beaucoup de bonne intelligence, mais les deux peuvent s'harmoniser. C'est pour ça qu'il ne faut pas, notamment, parler de choses binaires. Ça, c'est mal et ça, c'est mauvais. C'est entre autres elle qui nous permet de s'oxygéner. Les forêts, elles ramènent l'eau en surface. Donc, le rôle des forêts, moi, j'irais même plus loin. Je pense que l'agriculture devrait profiter des forêts et faire de l'agroforesterie. Ça, moi, je pense que c'est l'avenir. On a vu qu'en Afrique, quand ils ont fait de l'agroforesterie, ils ont repermis de créer du sol et de la vie sur ces sols. Donc, pour moi, le rôle des forêts et surtout des arbres est notable. Je vis en forêt, si vous voulez. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne prélèverai pas tous les arbres. D'ailleurs, j'y compte pas. Par contre, je construis ma maison en arbre, que ça dérange ou pas. Sauf qu'à un moment donné, je trouve ça mieux que de construire des maisons en aglo, quoi. Parce qu'il y a eu des interventions là-dessus qui disaient qu'il ne faut pas utiliser les forêts pour faire des maisons. Excusez-moi, mais si on n'utilise pas les forêts, on utilise les aglos. Moi, franchement, je préfère utiliser des forêts de manière intelligente.
J'ai aucun problème avec ça. Moi, ce que j'essaie de défendre, c'est autre chose. C'est qu'aujourd'hui, je crois qu'on, d'un point de vue politique et social, on hérite d'une confrontation qui est extrêmement dommageable entre, par exemple, le monde agricole, d'un côté le monde paysan, d'un côté, et de l'autre, le monde qui sont nommés des écolos, qui voudraient protéger les milieux. En vérité, sur la plupart des questions, ces deux mondes sont des alliés. Et c'est d'autant plus des alliés qu'ils ont un ennemi commun. Et cet ennemi commun, c'est l'industrialisation, c'est l'illimitation de l'économie, c'est l'extractivisme, c'est le productivisme. Ces deux alliés, pour le dire au sens large, ces deux alliés sont minoritaires et écrasés par un ennemi qui est très supérieur à eux. Et pourtant, ils passent leur temps à se tirer dans les pattes et à s'inventer des inimitiés, des conflictualités qui n'ont pas de sens. À mon sens, c'est une profonde erreur et il y a un front commun à inventer entre des gens qui veulent défendre des milieux et qui défendent que certains milieux méritent de ne pas être exploités et des manières d'user du territoire, d'utiliser le territoire, d'exploiter le territoire qui le protège. Parce que c'est ça le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est qu'il y a des agricultures qui protègent les milieux. Et il y a des foresteries qui protègent les milieux. Donc la seule manière de protéger, c'est pas de sanctuariser. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas de sens de sanctuariser et que c'est une erreur totale. Il faut faire une alliance entre les usagers qui protègent les milieux et d'autres manières de protéger qui peuvent être, sur certains endroits locaux, d'exclure l'exploitation. Parce que, encore une fois, j'attends juste la personne qui va venir m'expliquer pourquoi nous avons le droit et le devoir d'exploiter 100% des écosystèmes terrestres. Je suis assez d'accord sur le fait que l'un des grands enjeux là, pour les années qui viennent, c'est de réouvrir un espace de dialogue entre les agricultures alternatives, les foresteries alternatives et le monde de la protection de la nature. Parce que, encore une fois, sur le fond, ce sont des alliés qui doivent se reconnaître comme tels pour ne pas s'inventer des ennemis inutiles. Pour moi, le grand enjeu politique contemporain, c'est les ennemis inutiles. On est des spécialistes quant à s'inventer des ennemis inutiles. Eh ben, c'est relativement pratique parce que si vous regardez, par exemple, regardez le front commun spontané qui existe entre des défenseurs de milieux naturels, de zones humides d'un côté et des paysans contre l'artificialisation, c'est extrêmement net. Regardez le front commun qui existe spontanément entre des défenseurs de la nature et des agriculteurs contre l'usage délirant des produits phytosanitaires, c'est une évidence. C'est ça qui est fascinant, c'est qu'en fait les fronts communs sont partout. Et à mon sens, c'est un enjeu important pour la Confédération paysanne de ne pas se crisper sur une idéologie dans laquelle l'usage et l'exploitation sont la norme absolue, et de s'ouvrir aussi aux questions de la défense des milieux qui relâchent la pression, parce qu'il y aura des alliés extrêmement importants pour eux dans la sensibilité écologique qui monte dans la société contemporaine.
Et là, je reviens, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez dit, mais en fait, je reviens à une chose qui est assez, moi, qui me perturbe beaucoup quand je suis à la SAFER, au comité technique. Donc, c'est là où on attribue les terres à tel paysan ou tel privé. Hein. Des fois, ce n'est pas que des paysans. En fait, dès que quelqu'un a de la forêt, il est prioritaire à l'autre quand il a une surface de forêt qui est contiguë. Donc, du coup, pour moi, c'est une crainte parce qu'entre nous, il y a beaucoup de citoyens lambda qui n'ont aucune connaissance de la forêt, qui vont fondre n'importe quoi. Donc, ils veulent en tirer profit. Donc, nous, on voit autour de Réan, là où j'habite, en fait, ils font des coupes rases parce que ça engendre du fric facile, quoi. Donc, moi, je pense qu'il faut faire attention de ne pas trop communiquer. Mais ça n'a rien à voir avec ce que vous avez dit précédemment, mais c'est par rapport au débat qui tend la salle. C'est qu'il faut aujourd'hui qu'on soit vigilant là-dessus, quoi. Moi, je pense que la forêt, il faut qu'elle soit bien gérée. Quand vous avez créé des collectifs du coup, là, pour l'acquisition de la forêt, ça c'est pertinent parce que vous allez avoir une gestion collective intelligente de la forêt. Mais peut-être vous me parlez un peu de ça, de votre démarche là-dessus. Parce que moi, je vous avoue que j'ai une crainte des privés là, qui s'accaparent la forêt et qui font n'importe quoi avec. Quoi.
Ben, la nuance qu'on défendait tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les groupements forestiers citoyens. Et donc, ce sont toujours des collectifs. Et ces collectifs, ils se mobilisent essentiellement parce qu'ils défendent une foresterie alternative. Donc, par définition, ils ont un rapport à la forêt qui est diamétralement opposé à celui de l'industrie forestière et de la coupe rase. Donc, dans le cadre des groupements forestiers citoyens, c'est vraiment intéressant ces acquisitions parce que ça va, dans tous les massifs forestiers de France, ça peut être des gens qui vont défendre une autre manière de valoriser du bois, de valoriser le travail des bûcherons, de valoriser la transformation du bois dans la charpente. Et il n'y a pas de groupement forestier citoyen qui se soit construit pour faire du fric à partir des forêts parce que c'est contraire avec leur ADN.
Et travailler avec les paysans ou pas, les locaux, quoi.
Eh ben, c'est une très bonne question. Je ne sais pas dans quelle mesure. C'est assez imperméable, en fait, les deux mondes. Le monde de l'agriculture et le monde de la forêt sont assez imperméables. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de questionner des alliances possibles, notamment sur le pastoralisme, hein, parce que très clairement, il y a des multi-usages qui peuvent être intéressants. Il y a beaucoup de zones dans lesquelles on peut avoir des prairies sommitales qui sont historiquement utilisées par le pastoralisme et puis des forêts tout autour. Et là, il y aurait des dialogues intéressants à monter entre des groupements forestiers citoyens et des éleveurs qui font un pastoralisme alternatif, lui aussi.
Du coup, ces groupements, moi je pense que vous devriez aussi intervenir parce que maintenant Terre de Liens, on sait qu'il a la SAFER PACA, ils ont été invités en tant que censeurs. Parce que du coup, si vous êtes présenté, ils savent comment vous fonctionnez. Ça peut aussi aller en votre faveur lors des décisions qui sont d'attribution, en fait. Parce qu'ils savent que vous allez protéger et laisser peut-être aussi les paysans travailler sur ces surfaces-là ou pas travailler, ça dépend des zones. On est d'accord. Mais en fait, je pense que voilà, il va falloir communiquer davantage sur les structures existantes et de comprendre comment fonctionnent toutes ces structures, quoi. Parce que bon, moi, je fais la Confédération paysanne, mais là, je l'ai quittée parce que je trouve que justement, ces histoires de drapeaux et on est tous trop cloisonnés dans nos milieux, il faut que les luttes soient collectives pour que ça fonctionne. Donc, je suis en train de relâcher un peu le pied. Et quand on se prend la tête pendant des heures de plus se mélanger carrément à soulèvement de la terre, alors que parce qu'il y a eu des débordements et une manifestation, j'ai l'impression que je ne parle plus le même langage. En fait, à un moment donné, si on n'est pas tous de manière collective unis, comme vous disiez, ces histoires d'ennemis, c'était une question piège que vous avez posée. Mais en fait, j'ai l'impression que des fois, on cible mal nos ennemis, quoi. On se tire dessus alors qu'on est exactement dans la même lutte.
Absolument. Et moi, j'ai l'impression que ce qui est en train de se dessiner aujourd'hui dans les luttes contemporaines, c'est que la manière de faire des alliances qui ont l'air d'être contre nature, parce que elles réunissent des gens qui sociologiquement ne se parlent pas ou ne viennent pas des mêmes milieux, c'est la territorialisation des luttes. C'est-à-dire, c'est qu'on parle de milieux concrets. Si on parle d'une forêt concrète et que moi je vous dis, ben c'est super, là on a 100 hectares de forêt, faisons du sylvopastoralisme qui circule, qui est intelligent dans son rapport aux grands prédateurs, sur 75 hectares de cette forêt, et laissons 25 hectares de cette forêt les plus intéressants, les plus riches, avec les gros semenciers, laissons-les en libre évolution parce que c'est l'hôpital de campagne de la forêt, parce que ça va lui permettre de se régénérer. Et bien là, en fait, peu importe idéologiquement d'où on vient ou sociologiquement d'où on vient, en fait, on va pouvoir s'entendre parce qu'on va parler d'un lieu et d'un lieu qu'on défend et d'un lieu qu'on aime.
On va finir là-dessus, c'est très joli, Mandy. Merci. Et donc, attendez, avant de vous quitter, vous allez me m'énumérer tous vos livres là. Parce que comme ça, nous, on va écrire, on va prendre des notes et on va commander vos livres. Donc, vous redonnez votre nom et vous nous énumérez les livres. Vous en avez dû en écrire plusieurs pour que comme ça, on s'y réfère et comme ça, on lira un peu de philosophie. Ça nous permettra de prendre un peu de hauteur.
Et eh ben donc les livres qui sont, je crois, intéressants pour la question qui nous anime, j'ai écrit un livre qui s'appelle Manière d'être vivant. Et qui réfléchit d'ailleurs beaucoup sur la question du loup, parce que j'ai énormément travaillé sur la question du loup et sur comment est-ce qu'on peut arriver à sortir de l'opposition entre les pro-loups et les anti-loups. C'est une question très difficile, très conflictuelle, c'est chez Actes Sud. Et puis j'ai écrit un autre livre qui occupe nos questions, qui s'appelle Raviver les braises du vivant, chez Actes Sud et Wild Project, dans lequel je défends justement l'idée qu'aujourd'hui, socialement, il faut arriver à lâcher prise sur des pourcentages minoritaires de forêts et qu'il faut le faire en alliance avec une foresterie alternative d'un côté et avec des agroécologies alternatives qui sont paysannes en fait, le mot c'est paysan, et pour inventer de nouvelles alliances. Donc le sous-titre c'est Un front commun.
Merci beaucoup.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. The
Hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why. Everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see her when you fall asleep. But never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.